Salut, c'est le PodMag numéro 4. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En ce début de semaine, France Podcast vous propose un petit tour de l'actualité du podcasting. Mais avant de commencer ce nouveau numéro du PodMag, je voulais juste adresser un petit mot à nos amis anglais pour leur dire que je suis avec eux dans l'épreuve qu'ils traversent. Ces attentats sont des actes lâches qui doivent nous rappeler que l'intolérance et le fanatisme tuent tous les jours dans le monde et qu'en Iran, un blogueur qui s'appelle Mojtaba Saminejad risque toujours la peine de mort parce qu'il a osé s'exprimer sur son blog. La liberté et la démocratie sont des valeurs qui ne plaisent pas à tout le monde et ainsi, en muselant par tous les moyens ceux qui osent s'exprimer, l'Iran ou la Chine commettent également des attentats contre la liberté. Nous avons la possibilité de pouvoir nous exprimer librement et le podcasting est un nouvel outil pour cela, alors profitons-en. Sur une note beaucoup moins grave, vous avez peut-être remarqué, mais France Podcast est classé deuxième dans le classement de l'iTunes Music Store français. Alors si cela continue, moi je vais avoir le micro qui enfle, mais merci quand même de nous écouter et n'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez. Il y a juste un truc qui ne va pas, c'est mon classement en Belgique, Luxembourg, Canada et Suisse. Cela ne va pas du tout. Alors je lance un appel officiel aux auditeurs belges, luxembourgeois, suisses et québécois qui m'écoutent. Parlez de France Podcast à vos amis. Au fait, comme je suis dans la Minute France Podcast, je voulais vous dire, vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails très gentils, cela me fait toujours plaisir, mais vous êtes aussi très nombreux à me demander des conseils ou des explications pour résoudre des problèmes. Alors j'essaye de répondre le plus rapidement possible à tout le monde, mais ne désespérez pas si vous voyez que je tarde un peu. Au sommaire de ce nouveau magazine, nous allons nous intéresser au Podcatcher, à l'ouverture d'Odeo, à Lobcandy Records, à FeedBurner qui se met à l'heure d'iTunes, et à Automator Podcast Actions d'Apple. Nous allons découvrir également de nouveaux podcasts francophones, tels que Podcaster ou Podcart. Nous verrons également Podcast Épée Lorient et le nouveau numéro d'IdéProd TV. Pour finir, je vous l'avais annoncé ce week-end, notre invité est Luc Saint-Élie. Nous reviendrons avec lui sur l'avenir du podcasting, l'arrivée d'Apple. On parlera des journalistes, de comment Luc réalise ses podcasts et de beaucoup d'autres sujets. Alors c'est une interview à ne pas manquer. Podcatcher est une nouvelle application gratuite pour télécharger ses podcasts et les écouter sur son baladeur MP3. C'est un nouveau lecteur de podcasts. Vous allez me dire un de plus, je vous répondrai pas tout à fait, car Podcatcher a une particularité, c'est qu'il s'installe non pas sur le PC, mais directement sur le baladeur numérique. Vous n'avez qu'à le brancher directement sur n'importe quel PC relié à Internet, et vous pourrez télécharger sur votre baladeur MP3 les podcasts auxquels vous vous êtes abonné. Alors c'est assez sympa, c'est simplissime à utiliser. Le seul problème, c'est que vous êtes limité par la mémoire de votre lecteur MP3, ce qui peut s'avérer problématique si vous souhaitez garder vos podcasts. Odeo a enfin ouvert ses portes officiellement ce week-end. Alors Odeo est un service internet qui vous permet d'écouter et de vous abonner à vos podcasts favoris. Ils proposeront bientôt aussi la création de podcasts et la possibilité d'avoir une solution complète pour créer et diffuser vos podcasts. Rappelons tout de même la polémique que ce service avait provoquée le mois dernier lorsqu'un podcasteur avait remarqué qu'Odeo avait changé le lien RSS original de son podcast en le remplaçant par un lien Odeo afin d'insérer des publicités. Odeo avait dû faire machine arrière. Une nouveauté de taille dans FeedBurner, si vous avez créé un lien RSS 2 avec FeedBurner, n'oubliez pas d'aller remplir le nouveau formulaire dans l'option Smartcast. Ce formulaire vous permet d'être reconnu par iTunes, il vous permet d'ajouter un logo visuel à vos podcasts et de donner un certain nombre d'informations sur le contenu de vos podcasts. Automator Podcast Actions vous permet d'ajouter 4 nouvelles actions à Automator. Alors Automator est le petit robot de macOS 10.4 qui permet de faire des actions qu'on lui demande automatiquement. Il crée notamment des liens XML automatiquement pour vos podcasts, ce qui est plutôt agréable. Je n'ai pas pu le tester car je n'ai que l'ancienne version de macOS X, mais cela semble très bien. Si vous cherchez à mettre de la musique dans vos podcasts, je vous invite à aller faire un tour sur Lobcandy Records qui propose un catalogue de musique complètement gratuit sous condition de l'utiliser sans but commercial. Ces musiques disposent d'une licence Creative Commons. Les podcasts peuvent devenir dans le futur un nouveau moyen de faire découvrir de nouveaux musiciens qui ne sortiraient pas des grandes majors du disque. Je vous invite à faire attention au contenu que vous proposez dans vos podcasts et à ne diffuser que des musiques sous licence Creative Commons ou libre de droit. Ce week-end, je vous avais fait écouter Blind de Flourish. Je vous propose un deuxième titre, toujours de Flourish. Il s'agit de Neighbor. Voici un extrait. Ces musiques et les télécharger légalement et gratuitement sur le site de Lob Candy Records. Cette semaine, à la découverte des podcasts francophones, nous vous conseillons d'aller sur le Podcastor. Alors, j'ai découvert le Podcastor en allant sur le site d'Audiopod, tout nouveau site sur le podcasting. Le Podcastor est un podcast qui parle du phénomène podcasting. Il est tenu par Loukouman Hamidou. Alors, je suis pas trop sûr de la prononciation et je m'excuse d'avance, mais je vous propose de l'écouter. Il nous explique de quoi parle Podcastor.
Podcastor, c'est une réflexion un peu plus poussée sur l'évolution et les enjeux des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et du podcasting en particulier. L'adresse, c'est www.podcastor.com. www.pot, comme un pote, mais sans le E, et puis castor comme un castor. Et comme je dis souvent, quand on peut pas être au milieu de nos amis les castors, vaut mieux être au milieu des poules.
Son premier numéro est assez sympa, et le podcast est assez agréable à écouter. Deuxième podcast de la semaine, c'est le Podcart. Alors c'est un tout autre genre.
Bonjour, vous êtes bien sur le Podcart numéro 3.
Le Podcart est un podcast créé par des lycéens de Tours. Il me semble que c'est le premier podcast lycéen en France. Voici par exemple le sommaire du Podcart numéro 2.
Nous allons parler de la promo sur le cerveau. Comment vous faites entuber en regardant la télé. Une musique pour téléphone mobile éditée en CD à tête du hit-parade anglais. Et la fondation Nicolas Hulot part à la chasse au gaspillage.
Le ton est provocateur, mais c'est un podcast à écouter absolument. Beaucoup moins provocateur, c'est le podcast Épée Lorient. Alors, Épée Lorient se propose de vous lire des passages de la Bible et de les commenter. Épée Lorient est le premier podcast religieux francophone.
L'économe infidèle et les richesses injustes. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 1 à 9. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens.
Vous y trouverez peut-être un intérêt, mais comme quoi la foi et les nouvelles technologies font bon ménage. Dernier podcast que je vous recommande cette semaine, il s'agit d'IdéProd TV. Alors IdéProd est une boîte de création multimédia suisse que j'adore. Vous connaissez sûrement CulturePod. Ils ont aujourd'hui IdéProd TV qui sort son deuxième numéro. Alors là, je ne vous conseille pas d'aller écouter IdéProd, mais plutôt de le regarder parce qu'il s'agit de podcast vidéo. Voici le sommaire du numéro 2.
Salut à tous, heureux de vous revoir. Vous êtes là pour le podcast numéro 2 d'IdéProd. Eh ouais, ça fait plaisir. Au programme cette semaine, de la cuisine, Zuguette et Morissette, des infos nationales, des brèves, la bourse, et tout ce que vous voulez. 3-4, IdéProd, le podcast de... C'est parti!
L'émission est plutôt bien faite, c'est drôle, c'est intelligent, c'est complètement décalé. C'est un grand moment de podcast vidéo. Je vous conseille fortement d'aller regarder IdéProd TV.
Ça vous plaît le podcast IdéProd, hein? Eh ben, vous en parlez à vos amis. C'est pas une proposition, c'est une obligation. Vous en parlez à vos amis, parce que peut-être que vous nous voyez, nous. Mais nous, on vous voit aussi. On vous a reconnu. Alors si vous n'avez pas dit ça à au moins 5 personnes, on ira regarder les clics et on donnera les claques. Bon, on bouffe.
J'espère que vous serez plus que 5 à aller voir IdéProd TV. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir Luc Saint-Elly. Alors Luc Saint-Elly, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'un des tout premiers podcasteurs francophones. Aujourd'hui, son podcast audioblog.fr a une des plus grosses audiences dans le monde du podcasting francophone. Mais si nous l'avons invité aujourd'hui, c'est pour qu'il nous parle de podcasting, de sa vision sur le futur et de son expérience. Luc Saint-Elly, bonjour.
Bonjour.
Alors tu es journaliste. Tu as créé le podcast audioblog.fr qui au départ était simplement un blog.
À l'origine, oui, tout à fait. Moi, je m'occupe d'un magazine photo, c'est le micro photo vidéo, un peu d'histoire. Et j'avais un weblog depuis très longtemps. L'année dernière, je me m'étais dit que ça serait sympa d'essayer de faire des trucs audio au lieu de faire que des choses écrites. Puis la mode du podcast est arrivée là-dessus et donc du coup, ben, ça a bien marché, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai changé de nom d'ailleurs, parce que mes sites, j'ai toujours fait sous mon nom de famille, hein, c'est dit. Et c'était plutôt confidentiel, enfin il n'y avait pas un monde fou, hein, donc c'était des espèces d'expériences perso. Puis là du coup, comme ça devient quelque chose de vachement grand public, les canards s'y intéressent, etc. Alors je me suis dépêché de déposer un nom de domaine plus anonyme, parce que je suis nombriliste, mais là ça prenait des proportions exagérées. Quoi.
Alors, au début, je vais te poser des questions un peu bateau. Ouais, ouais. Comment tu as découvert le podcasting ?
Par hasard, j'ai d'abord enregistré des trucs audio et ça s'est joué quelques jours et j'ai appris que ça existait et que ça avait un nom. Dans le même temps, le logiciel que j'utilise pour faire mon weblog qui s'appelle WordPress a été mis à jour pour ça. Donc tout s'est fait en même temps. Je me suis pas dit tu vas faire du podcasting. J'ai commencé à vouloir enregistrer des choses que je faisais par écrit et les enregistrer en audio. Et en même temps, j'ai découvert qu'il y avait tout un concept derrière ça qui était en train de naître et donc c'est parti comme ça, quoi.
Alors, au niveau du matériel, tu as quoi exactement ? Alors, tu dis que tu utilises WordPress, alors c'est pour fabriquer ton blog ?
Alors, WordPress, c'est un des iliards. Moi, j'utilise celui-là, mais bon, il y en a d'autres aussi bien. C'est un des scripts PHP qui fait tourner le weblog. L'avantage, c'est que tout est automatique. Moi, je tape les textes dans un formulaire, je clique envoi, et ensuite, il s'occupe du reste. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a d'autres clients, il y en a qui font ça avec Spip, il y en a. Bon. WordPress, c'est une des options. Pour ce qui est enregistré, je fais ça sur un petit iBook, hein, c'est un truc en plastique de chez Apple qui marche plutôt pas mal. C'est un 12 pouces. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais pour faire du son, ça va pas, disons. Pour le reste, l'iBook n'a pas d'entrée son. Donc il fallait que je lui rajoute une interface audio qui a conditionné le reste. Je me suis renseigné un tout petit peu parce que j'y connaissais, mais alors vraiment rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien de rien. Ça vaut assez cher les interfaces audio. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Mbox, dont on m'a dit que c'était bien, que j'ai acheté d'occasion, pas très cher. Donc j'utilise cette Mbox comme interface audio. Et cette Mbox, elle est fournie avec un logiciel qui s'appelle Pro Tools. J'ai essayé un peu GarageBand. J'ai trouvé que Pro Tools c'était plus simple. Alors, ça fait bondir ce que je dis parce qu'apparemment, GarageBand est censé être le simplissime du truc. Mais enfin, moi, Pro Tools, ça correspondait mieux à ma façon de voir les choses. J'ai pu. Disons que Pro Tools, c'est un peu comme Photoshop. C'est-à-dire que connaître 100% de Photoshop, c'est un vrai métier, ça prend une vie. Si c'est pour bricoler 2-3 trucs, changer la taille d'une photo ou gommer un truc, n'importe qui, au bout de 10 minutes, peut utiliser Photoshop pour ça. Ben, Pro Tools, c'est un peu la même chose. Normalement, c'est un vrai soft utilisé dans les studios, très complexe, très machin. Pour faire ce que je fais dans ma cuisine, il le fait très très simplement, très très bien. Et à ce niveau-là, il est plus simple que GarageBand. Voilà. Ensuite, il m'a fallu un micro. Alors j'en avais un qui me restait d'une période de ma jeunesse où j'étais le plus grand guitariste de mon allée d'immeubles, qui s'est avéré être une sombre bouse. Et j'ai acheté un petit micro condensateur. Maintenant, je suis devenu un spécialiste du truc. Hein, spécialiste de fresh date, qui est fabriqué par M Audio, que j'ai pas payé pas très cher et qui convient assez bien à ce que je veux faire, à vrai dire. C'est sans doute pas une merveille dans l'absolu, mais pour ce que je fais, il est très bien. Puis il a une bonne tête en plus, voilà.
Et maintenant, si tu devais définir ton podcast, parce que moi j'ai essayé de trouver une définition à ton podcast, de dire de quoi ça parlait, mais ça parle de tout. Et alors, c'est autant une foire de réponses à des questions pour tous ceux qui découvrent le podcasting, parce que vous étiez un forum également avec audioblog.fr, Et en même temps, tu vas parler de politique, de société, de ce qui t'intéresse, mais alors c'est indéfinissable.
Alors oui, c'est indéfinissable et c'est fait pour. Moi, ce weblog, il me sert à écrire ce que je peux pas écrire ailleurs. Il y aurait d'ailleurs un vrai sujet à faire sur les weblogs de journalistes. C'est anormal que les journalistes aient des weblogs puisqu'on est payé pour écrire. C'est quand même quelque part qu'il y a un petit malaise. Mais forcément, je m'occupe d'un magazine photo et je m'occupe d'un magazine photo aujourd'hui. Je m'occupais d'un autre magazine photo qui s'appelle Réponse Photo il y a quelques années. Donc c'est un domaine que je connais bien, que je suis depuis longtemps. Donc j'avais pris l'habitude sur mon weblog de publier des trucs en lien avec la photo. Je m'intéresse aussi à la mouvance de la numérisation galopante, notamment dans la musique. Donc je publie de temps en temps des trucs qui ont trait à ça. Mais au fond, ce weblog, c'est des choses qui m'intéressent ou qui me traversent l'esprit à un moment donné. Alors, par exemple, j'ai eu pas mal de choses autour de l'histoire du référendum auquel je ne comprenais pas grand-chose, donc j'ai enregistré des trucs là-dessus. C'est un peu des. Ouais, c'est une espèce de fourre-tout où je vide ce qui me passe par la tête. Donc effectivement, quand il y a des choses politiques, j'essaye d'éviter les choses militantes, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est poser des questions et les réponses, je les ai pas forcément. Et surtout, j'aime bien que les gens les apportent, les réponses. Donc c'est pas un weblog militant. En revanche, c'est vrai que ça parle un peu de tout ce qui me traverse l'esprit à un moment donné. Ouais. Il n'y a pas de ligne directrice, en tous les cas, ça c'est clair.
Tu trouves pas ça militant, mais c'est par moments c'est un peu, c'est vraiment c'est ce que tu penses, c'est ce qui t'énerve profondément. Que
Voilà, non mais on est bien d'accord.
dans ton dernier podcast, tu parles 2 minutes de Sarkozy, t'es pas tendre avec lui.
Ah non, non, mais
non.
moi, Sarkozy, je l'admire. Non, non, mon podcast, c'est un ode à Sarkozy. Ceux qui ont été lamentables sur ce coup-là, c'est tous mes confrères. Hein. Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur il y a à peine un an. Un an après, il arrive en disant, oh là là, mais c'est le bordel au niveau de la sécurité, je vais passer tout ça au Karcher. Personne n'a pensé à lui demander, à lui faire remarquer que le bordel en question, c'est celui qu'il avait laissé. Mais comme il a prononcé le mot Karcher, tout le monde a focalisé là-dessus. Et c'est très bien joué de la part de Sarkozy. Alors ça, vraiment, chapeau. C'est plutôt mes confrères qui ont été lamentables là-dessus. Et il est vrai que, alors maintenant, depuis de l'eau a passé sous les ponts, j'ai appris que la vraie vie est un peu différente des rêves, mais quand ça fait 20 ans, pas loin, que je suis journaliste, quand j'ai commencé à être journaliste, c'était avec un idéal un petit peu romantique de celui qui fait découvrir le monde et patati patata. Bon, ça, j'en suis revenu, on est d'accord, mais il n'empêche que le côté assez lamentable de notre environnement journalistique actuel me navre et que de temps en temps, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de faire des remarques désobligeantes sur mon podcast qui, après tout, est fait pour ça.
Mais est-ce que tu n'as pas peur que le podcast, qui est quand même une activité annexe, même entre guillemets de loisir pour toi, puisque tu n'es pas rémunéré,
Hélas
ouais,
d'ailleurs, hélas d'ailleurs.
mais on en reparlera après du podcasting commercial. Mais est-ce que tu n'as pas peur que le podcasting nuise un peu à ton véritable métier, qui est celui de journaliste? Parce que de par tes positions et de par
Moi, je suis un journaliste.
ce que tu dis sur ta profession.
Moi, je suis un journaliste insignifiant. Moi, je travaille dans des trucs techniques qui sont très très loin de la philosophie, de la politique ou des choses comme ça. Et après tout, au fond, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu. Je suis. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est assez marrant parce que journaliste, normalement, c'est un métier très médiatique par définition, mais surtout où on est très exposé. Or, moi, finalement, je suis beaucoup plus connu par ce que je fais en dehors de mon métier journaliste que par mon métier de journaliste lui-même. Et donc, non, vraiment, non, j'ai pas peur de ça. Je pense pas que ça puisse me nuire. Et. Non, je serais, je sais pas, chroniqueur politique à Libération, je dirais sans doute pas la même chose, parce qu'effectivement, il y aurait une contradiction entre éventuellement ce que j'enregistre chez moi et ce que je raconte la journée en canard. Et moi, la journée, je gère une équipe de gens qui disent tel appareil il est bien, tel appareil il est pas bien. Donc, qu'à côté, je pense que mes confrères journalistes sont lamentables quand ils traitent Sarkozy, il n'y a pas de contradiction pour moi, non. Non.
Bon, tu avais une grosse audience déjà avant que iTunes arrive, mais depuis l'arrivée d'iTunes, ton audience, elle a explosé. Ça t'a posé des soucis?
Oui et non. Alors, des soucis techniques ponctuels, oui, parce que je pense que tout le monde est plus ou moins dans le même cas. Il se trouve que les weblogs en général, et mais sauf que les weblogs en général, ils n'ont pas de problème. Quand on diffuse du texte, on n'a pas besoin d'une grosse infrastructure. Mais les podcasts en particulier, parce qu'ils sont plus sensibles, diffuser des fichiers audio, c'est des gros fichiers qui consomment de la bande passante, sont tous des trucs qui sont installés sur des hébergements extrêmement légers, pas du tout faits pour avoir des grosses audiences. Donc effectivement, iTunes, c'était une espèce de mini tsunami comme ça, où d'un seul coup, des milliers de gens se sont mis à courir dans nos salles à manger, et les planchers n'avaient pas été prévus pour. Ceci étant dit, je suis intimement convaincu que ça ne va pas durer et il y a quand même un avantage énorme à cet inconvénient. Alors oui, les sites merdent en ce moment, une fois un jour sur deux ils sont en panne, etc. etc. D'accord. À côté de ça, c'est un énorme coup de promotion qui, comme il va disparaître, est toujours bon à prendre.
Tu penses, toi, que l'effet Luxintelligence sur iTunes va disparaître?
Ah, je crois, au-delà, ça me fait saigner de dire ça. Moi, je suis très, très, très flagorneur et nombriliste. J'aimerais bien être une vedette. Je suis une star ratée, moi. Non, mais plus sérieusement, je pense que les podcasts indépendants dans iTunes vont disparaître. La logique d'iTunes, elle est extrêmement logique, c'est le cas de le dire. Jobs y vend un système complet avec d'un côté un appareil pour consommer du son, un système de distribution du son et un système d'acheminement et de commercialisation du son. C'est ce qu'il fait dans la musique et c'est ce qui a fait non seulement son succès, mais c'est probablement ce qui a sauvé Apple, qui aujourd'hui est pratiquement plus un marchand d'iPod qu'un marchand de Macintosh. L'histoire des podcasts, c'est exactement la même chose. Il a réussi à séduire les maisons de disques, mais il y a une catégorie qu'il n'a pas pu séduire, c'est les radios. Pour une raison très simple, c'est que les radios, pour l'instant, elles diffusaient en streaming. On peut faire du streaming électronique sur Internet. D'ailleurs, iTunes a une rubrique radio. Sauf que Apple a aucun intérêt à promouvoir ça, puisque le streaming, ça ne se passe pas avec des iPods, ça se passe avec des Nokia et choses comme ça, les téléphones portables qui pourront faire de la radio en streaming, et pas les iPods dont le concept est basé autour de la distribution de fichiers. Donc, mon avis à moi que j'ai en personne et qui est en train d'ailleurs de se vérifier, c'est que la promotion du podcast pour Apple, ça a été un moyen de faire venir les radios. Et ça se vérifie. Quand on regarde, ils ont commencé le 29, je crois, c'est-à-dire qu'il y a à peine une semaine. Une semaine plus tard, alors qu'au début, on ne voyait que les podcasts indépendants. Là, ces derniers jours, la radio suisse romande est arrivée. RTL est en bas de classement, mais ils vont monter à grande vitesse. D'ici quelques jours, on va voir arriver Europe 1, je crois que France Inter gamberge. Les radios genre Fun Radio, qui sont en plein visées par cette histoire de musique informatique, puisque tous les mômes qui ont des baladeurs, iPod ou d'ailleurs dans les oreilles, ils n'écoutent pas Fun Radio, Énergie, machin et compagnie. Donc ces gens-là sont pas stupides. Pour eux, c'est une opportunité géniale, ce genre de choses. Donc je pense qu'on va voir arriver dans les semaines qui viennent Énergie, Fun Radio, Bidule, bref, le top 100 qui pour l'instant est un top 100 qui est une photographie déjà assez lacunaire, parce que je ne sais pas comment ils ont fait la sélection de départ, mais enfin il manque beaucoup de monde. Mais enfin, en gros, une sélection globale d'indépendants, je parie que d'ici la rentrée, là, ça tombe bien, on est en été, donc on bénéficie de cette promo pour l'instant. Je pense que les radios doivent préparer les choses pour septembre, mais en septembre, il n'y aura plus un indépendant dans le top 100. Ça me paraît évident, quoi. Juste là-dessus, il y a qu'à voir RTL. Ce que fait RTL, j'ai rien contre RTL en tant que radio. Ce que fait le podcast d'RTL n'a aucun intérêt. Bah, vraiment aucun. Ils ont fait une espèce de ramassis de briques. Manifestement, le truc, c'était mettez des fichiers en ligne, mettez n'importe quoi dessus pour qu'on puisse avoir une présence. Ensuite, il suffit de matraquer bien un tout petit peu sur l'antenne et immédiatement le truc va grimper. Donc, je pense que pour nous, indépendants, le fait de bénéficier d'iTunes en ce moment, c'est une exposition formidable. C'est comme si Apple nous avait dit, en gros, je vais vous faire une campagne d'affichage pendant un mois, après vous vous démerdez. C'est très bien. Oui, ça pose des problèmes techniques, mais après tout, je pense que c'est des bons problèmes, d'autant que iTunes ne va plus nous concerner à Noël. Je pense que ça ne nous concernera plus personnellement. Là-dessus, c'est à peu près clair, quoi. Il y aura les gens qui se sont inscrits en ce moment, qui passeront peut-être par iTunes pour récupérer nos fichiers, mais on ne sera plus visible dans iTunes à Noël. Ça me paraît clair.
Mais alors, c'est quoi la place du podcasting amateur
Alors ça, c'est une
pour
bonne
toi,
ça c'est une
pas dans le
bonne
futur?
Ouais, ça c'est une bonne question. À vrai dire, j'en sais rien. Je crois qu'il est important maintenant où Madame Michu commence à savoir que ça existe, de mettre la gomme pour la convaincre, puisqu'elle n'en est pas forcément encore convaincue complètement, qu'il y a une alternative aux médias institutionnels. Et donc, ça m'ennuie un peu qu'il y ait aussi peu de gens indépendants en France qui fassent ça, justement, parce que je crois que c'est maintenant qu'il faut se positionner comme existant. Comme étant des gens qui existent, comme une alternative crédible aux médias institutionnels, parce qu'ensuite, ça va être trop tard. Donc la place, après, je ne sais pas. À vrai dire, j'en sais rien.
Oui, parce qu'au niveau des podcasts en francophone, en France notamment, c'est en France qui est plus dramatique, je trouve.
Ah ouais, c'est
Il n'y
bizarre
a pas
total.
grand-chose. La Suisse se réveille de manière hallucinante, la
Ils
Belgique
font des trucs
aussi.
sympas. Ils font des trucs sympas, les Suisses, en plus.
Oui, Idée Prod, par exemple, est un podcast enfin bien, quoi. Ils ont même fait un podcasting vidéo qui est sympa, qui va voir. Bon, c'est tout petit, mais c'est un
Oui, mais
début qui est
c'est
sympathique.
original, quoi. C'est
Voilà.
original, hein, oui.
Mais là, en France, pourquoi on met tant de temps à se lancer dans le podcasting? Moi, il y a quelques exemples. Il y a mon puto qui vient de se mettre dans le podcasting. Tu en as parlé. On est un certain nombre à en avoir parlé, donc c'est un bon début. Mais beaucoup commencent et en fait s'arrêtent au bout d'un ou deux podcasts parce qu'ils se rendent compte que c'est très long et on n'a rien en
Alors, je
fait
crois
en
qu'il
podcasting français.
y a différentes raisons à ça. La première, elle est culturelle. Aux États-Unis, la notion d'un média à court rayon d'action, c'est quelque chose qui fait partie du paysage parce que, étant donné la taille du pays, il n'y a pas, enfin, s'il doit y en avoir quelques-unes, mais grosso modo, on peut dire que la radio aux États-Unis, ce n'est pas le truc qui arrose tous les États-Unis. C'est une radio de région, voire de ville. Et donc, c'est plutôt un maillage de, comme ça, de petits trucs. Pour les télés, c'est pareil d'ailleurs, un maillage de trucs. Et donc, la notion d'un média à court rayon d'action, ça fait partie de l'environnement. Chez nous, il n'y a pas cette culture du je desserre localement. Les médias chez nous sont tous nationaux. Donc je pense déjà que il n'y a pas une culture de tiens, et si je faisais quelque chose d'un peu plus réduit. Ensuite, il y a le fait qu'il y a quand même une barrière technique qui, même si elle n'est pas monstrueuse, est quand même existante, mine de rien. Écrire sur un weblog, ça demande juste de savoir écrire. Et encore, quand on voit ceux de les Skyblog savoir écrire, ça peut encore discuter. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas du tout de savoir-faire derrière. Même si c'est pas énorme. Enfin, moi, moi qui connaissais rien, je suis un bon exemple. Je suis vraiment parti de moins que zéro. J'ai énormément galéré avant d'avoir des résultats écoutables. Bon, là, c'est encore loin d'être parfait, mais ça commence à devenir écoutable. Et il y a quand même, mine de rien, une espèce de barrière à l'entrée qui est pas négligeable. Et enfin, ça demande un investissement personnel très nettement supérieur à un truc écrit, dans la mesure où l'écrit, ça ne demande pas vraiment de temps spécifique. On peut faire ça. Moi, mais les notes que je publie écrites, je les écris entre midi et deux au boulot, comme ça. Je vais pas bouffer. Et puis, quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête, hop, je rédige, je mets 1000 signes. Et je mets en ligne, on peut me déranger pendant ce temps-là, je réponds au téléphone, etc., etc. Enregistrer quelque chose, ça demande du temps exclusif pour ça, du temps vraiment très tranquille, sans personne qui vous dérange, sans personne qui fait du bruit, sans rien, etc. En gros, moi je fais ça la nuit souvent. Mine de rien, c'est un côté un peu sacerdoce, et c'est peut-être ça, mixé avec le fait qu'on n'a pas de culture de ce genre de choses en France, qui fait qu'il y a peu de gens qui se sont lancés là-dedans. Ouais, je pense. Il y a sans doute d'autres raisons, mais je pense qu'il y a ça. Parce que c'est quand même pas simple. Ça demande un vrai engagement personnel, ce qui n'est pas le cas avec l'écrit.
Et au niveau alors tout à l'heure on parlait du podcasting amateur, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de gagner de l'argent pour Monsieur Tout le Monde, pour Luxatelli par exemple?
Ah bah, gagner de l'argent
avec son podcast.
Ah bah, disons que ça se poserait. Alors, ça dépend. Il y a la réponse raisonnable, c'est non, faut pas rêver, ça se produira pas. Maintenant, si on rêve un peu. Moi, ça me plaît énormément de faire ça. J'adorerais pouvoir en vivre, pas forcément devenir riche, ne rêvons pas, mais si je pouvais en vivre, je serais absolument ravi. Parce qu'on pourrait, en plus, je pourrais faire des choses intéressantes. J'ai des tas de projets que j'ai jamais fait, jamais réalisé, parce qu'ils me demandent soit du temps, soit des sous, et que je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc effectivement, ça serait génial. Maintenant, il ne faut pas rêver. Que je sache, il y a très très peu, à part les sites web très technologiques, les machins genre PC, tout savoir sur le PC ou des choses dans ce goût-là, qui arrivent à faire un peu de sous sur Internet. Je pense que les annonceurs, avant qu'ils voient le podcast, le verront que lorsque les radios se seront installées dessus, et s'il y a des sous distribués sur le podcast, il ira naturellement vers les radios qui, en plus, elles, ont déjà des modèles économiques, on connaît ces annonceurs et vice-versa, etc. Donc c'est pas dans ma poche qu'ils vont arriver, mais je le regrette. En revanche, ce qui sera peut-être possible, c'est d'avoir des espèces de partenariats pour certains trucs précis. Je pense par exemple un partenariat dans la musique. Les nègres et consorts, au lieu de faire des procès, iraient voir les weblogs genre Pot de Vin, Pot de Feu et compagnie en leur disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ça me semblerait être une attitude un peu plus intelligente. Moi je sais que j'ai 2-3 projets, si j'arrive à trouver des sponsors, je serais ravi. J'ai des trucs filmés, j'aimerais bien faire de la vidéo par exemple. Mine de rien, la vidéo, il faut du matériel, patati et patata. Si j'arrivais à trouver une boîte qui me prête du matériel, j'en serais ravi. Mais je pense pas que ça dépassera ça. À mon avis, ça dépassera pas ça. Hélas, d'ailleurs.
Ben, lance un appel. Alors,
donc, s'il y a des mécènes, s'il y a des mécènes et qu'ils ont du pognon, dont ils savent pas trop quoi faire, moi, je peux le blanchir, le planquer, le dépenser. Ouais, y a aucun problème là-dessus.
C'est très bien. J'aime bien le blanchir.
C'est fou, il y a des gens qui ont des problèmes pour blanchir leur pognon. Ils viendraient me voir, moi je peux leur garantir que leur pognon, ils n'entendront plus jamais parler.
Ils n'auront plus de soucis avec.
Ça, ils n'auront plus de soucis avec. Je pense qu'ils vont pas toujours frapper aux bonnes portes.
Alors, tu écoutes un peu les autres podcasts ou pas?
Oui.
Tu écoutes quoi?
J'écoute ce que fait Potvin est parfois plutôt pas mal, dans le genre sérieux, bien léché, machin bidule. Ce que fait Pot-au-feu aussi est plutôt bien. Mon truc, c'est pas trop la musique, donc eux, je les écoute, mais plutôt pour suivre ce qu'ils font, parce que c'est très bien, c'est bien fait, quoi. C'est pas forcément ma tasse de thé. J'aime beaucoup Annie Viglielmo, qui est une amie qui, à Marseille, fait un truc qui est un vrai souk, mais qui est un souk sympathique et qui, mine de rien, commence à prendre de la gueule. Ça s'appelle Melting Pod, elle fait ça à Marseille, et en fait elle fait un podcast sur la scène rock marseillaise, mais alors elle mouille le maillot, Annie, elle est tous les soirs dans les salles de concert, dans les vestiaires pour interviewer les musiciens, enfin, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Elle fait un peu ce que rock and folk à elle toute seule là-bas à Marseille, et son truc je crois qu'il va finir par devenir un truc bien, puis en plus elle parle l'anglais avec l'accent éducation nationale, enfin c'est un grand moment, quoi. C'est vraiment très bien, je peux me moquer tranquillement parce que j'ai exactement le même, sauf que mais elle il est encore plus sympa parce que c'est l'accent éducation anglais. Éducation nationale plus l'accent marseillais par-dessus.
Il ne faut pas se moquer de l'accent marseillais. Hein. Je suis marseillais.
Donc voilà. Autrement, par curiosité, j'écoute ce que fait Kenji Mao qui fait comme ça du Japon. Alors le Japon, c'est un truc qui m'est un peu étranger. Mais je trouve que lui, il a un vrai concept original. C'est peut-être le seul à avoir fait quelque chose d'un peu original et spécifique avec le podcast, et manifestement ça plaît, hein. Je vois que son truc il est un peu partout, mais il le mérite. Idem pour Olivier Anne de Bordeaux, alors qu'il lui fait ça de manière un peu plus originale, il se balade dans Bordeaux, il enregistre ce qu'il voit, donc je pense que ça peut surtout plaire aux Bordelais, mais bon, c'est intéressant. Donc il se fait des choses intéressantes en France, le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de monde qui le fait, ça c'est clair.
Alors c'est amusant parce que quand tu as cité là, tous ces gens, c'est alors que le blog est quelque chose de très parisien,
alors, ça c'est une excellente remarque. Ça c'est une excellente remarque, et moi-même je suis un peu en dehors de Paris. Non mais ça c'est une excellente remarque, mais c'est-à-dire que je crois que le podcast, il est totalement en dehors du côté un peu hype, branchouille, machin bidule, qu'a une certaine partie du weblog. Au fond, les gens qui font du podcast, ils n'en ont rien à foutre de faire partie d'une mouvance weblog ou de trucs comme ça. C'est juste un média qui leur permet de s'éclater, et ils font des trucs avec. Donc c'est très juste. Oui, c'est même Bertrand, le nôtre, il a Grenoble. Oui, il y a la.
Oui, c'est ça.
On peut dire que c'est pas tout le monde pratiquement est en dehors de Paris. C'est vrai, oui. Ce qui est plutôt bien. Et je pense pas que ça ait un lien quelconque avec la petite scène effectivement de blogueurs parisiens qui passent son temps à se congratuler mutuellement. Oui, je pense pas que ça soit très lié au fond. Non, ça c'est clair. Mais c'est plutôt une bonne chose.
Pourquoi les hébergeurs français tardent tant à proposer
Je crois qu'ils n'en ont même pas entendu parler. Alors je pense hein, qu'ils n'en ont même pas entendu parler encore jusqu'à maintenant. Que ça concerne trop peu de monde, il n'y a pas de marché, on doit être en comptant ultra large, on doit arriver à rassembler 30 personnes en France en ratissant vraiment à mort, quoi. Mettons 50, allez, je vais être gentil, mais c'est ça. Donc il n'y a pas de marché pour eux là-dessus. En plus, ce qu'on fait, nos besoins, nous, ils sont un peu pénibles du point de vue hébergeur. Parce qu'aujourd'hui, les hébergeurs arrivent à proposer des choses avec beaucoup de place, parce que le disque dur, ça ne vaut plus rien, donc proposer des gigas, ça n'engage à pas grand-chose. En revanche, nous, on consomme beaucoup de bandes passantes. Et là-dessus, je crois que ce qui manque, c'est un système qui permettrait d'avoir des caches et qui puissent redistribuer les fichiers sans chaque fois qu'ils repartent de leur serveur d'origine. C'est un peu con que tout le monde tape sur la même machine. Donc je sais pas exactement comment ça va se terminer, mais il faudrait arriver à un système de cache un peu dans l'esprit du peer-to-peer où les fichiers circulent comme ça de truc en truc et pas forcément tous aller les chercher sur le même serveur, parce qu'effectivement le problème il est un peu insoluble. La bande passante, c'est encore quelque chose de cher aujourd'hui, et nous on est des gros bouffeurs de bande passante, hein, là-dessus il n'y a pas de photo. D'ailleurs, il vaut mieux que les hébergeurs ne nous aient pas encore vus, parce que grosso modo tout le monde a ses fichiers hébergés chez Free. Le jour où ils vont réaliser, ils vont nous virer, donc c'est pas plus mal qu'ils soient pas au courant.
Au niveau de ton hébergeur, toi tu as Free et OVH.
Moi j'ai mon le site web est hébergé chez OVH depuis le début, enfin, depuis très longtemps. Ouais, le site web est hébergé chez OVH. Et les fichiers, alors je les héberge chez Free et je les balade un peu de temps en temps en essayant de trouver quelques endroits qui va bien. Bon, là, Free, c'est un peu la solution évidente pour l'instant parce qu'ils ont leur offre à 1 giga. Moi, j'ai des comptes à 1 giga chez Free. Et tout compte fait, leur truc marche plutôt bien. D'ailleurs, l'histoire de podcast, c'est un bon test pour Free qui a globalement, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, plutôt pas trop mal tenu le choc pour des hébergements gratuits. Faut le reconnaître ça. Tout compte fait, ça marche pas si mal que ça, leur bazar. Parce que là, ça a fait quand même une grosse secousse, quoi.
Et ils t'ont pas contacté?
Non, je pense que... Mais Free, j'ai déjà des amis qui, pour d'autres raisons, d'ailleurs, se sont fait supprimer leur compte, ils contactent pas. Un beau jour, tu essayes d'accéder à ton compte, il n'existe plus. Et tu te dis, ah tiens, j'ai donc été viré. Ça se passe comme ça. Ce qui, dans la mesure où ils ne font pas payer, on peut difficilement leur en vouloir.
Et est-ce que tu as trouvé un autre hébergeur, une autre solution de rechange?
J'ai pas vraiment trouvé de solution hyper convaincante. Il y a un truc qui s'appelle Our Media, dont l'objet, c'est justement de proposer un hébergement à vie, etc., à tous les gens qui font des trucs. Mais en fait, leurs serveurs sont extrêmement lents et ça marche pas vraiment. Il y a un projet de cache répartie qui s'appelle Coral, que j'ai essayé également. L'idée, elle est vachement bien, mais pour l'instant, c'est encore en démarrage, et c'est pareil, ça marche un peu quand ça veut, donc la vraie solution qui tue, je l'ai pas pour l'instant. La vraie solution qui tue, ça, je ne l'ai pas.
Et qu'est-ce que tu penses de ta gloire soudaine?
Ouais, elle me fait un peu sourire. Disons que ma gloire soudaine...
Parce que j'ai lu une note que tu avais écrite sur les effets d'iTunes pour toi.
C'est complètement disproportionné. Ma gloire soudaine, elle est complètement disproportionnée. Disons qu'il y a deux phénomènes. Il y a le fait qu'il y a très peu de gens qui le font, du podcast, d'un côté. Il y a plus que deux phénomènes. Moi, je suis au confluent d'un certain nombre de trucs. Le premier, donc, c'est qu'il y a très peu de gens. Le deuxième, c'est que je suis journaliste et j'ai une grande gueule, donc je suis plus pratique quand on veut interviewer quelqu'un. Ensuite, il y a le fait que les journalistes se copient mutuellement, alors ce qui fait que j'ai bénéficié d'une couverture médiatique absolument délirante. Moi, ça me fait marrer, c'est plutôt agréable, ça fait du bien au nombril. Mais alors, depuis le début de l'année, je suis passé dans tous les médias nationaux, mais c'est incroyable, jusqu'à FR3 qui est venu tourner dans ma cuisine. Enfin bon, ce qui est quand même un peu ridicule, quand même, au fond, parce que je fais rien de particulier. Ça laisse à réfléchir sur. D'abord le fait que tous les médias se passent leur temps à se copier mutuellement, et sur le fait qu'on surréagit à des mots-clés comme ça. Alors, podcasting, c'est nouveau, machin, donc d'un seul coup, tout le monde se précipite. Le côté iTunes, ça c'est un peu différent. Là, c'est pareil, je ne sais pas comment Apple a fait sa liste de départ. J'ai eu le coup de bol de faire partie de ceux qui étaient livrés avec iTunes, et je l'ai pas...
Parce que tu étais enregistré sur le répertoire, ouais, d'iPod.
Ah, c'est pour ça? Ah ouais. Ouais, je savais pas.
Ils ont pris les podcasts qui étaient enregistrés sur le répertoire d'iPodder, et donc il y avait 9 podcasts francophones.
Ah bon, bah ça...
Et donc c'est pour ça.
Ah bon, bah ça je savais pas. J'ai cru que c'était parce qu'ils avaient embauché des étudiants pour aller racler à droite à gauche, et que donc et en plus j'ai l'impression que je l'ai pas déposé comme ça. Le nom de audioblog.fr, j'ai déposé ce nom parce que pour éviter de continuer à faire les choses sous mon nom de famille, parce que justement l'exposition dont j'étais l'objet faisait que tout ça c'était un peu gênant. Et je me rends compte sur la longueur que peut-être que c'est un nom qui est plus sexy que un certain nombre d'autres, et donc du coup j'ai bénéficié d'un nombre de gens anormalement élevés qui sont venus voir ce que je faisais. Je pense que si dans iTunes ça s'appelait, ce qui était le nom d'origine, et d'ailleurs le vrai nom du serveur c'était blog.synthédie.com, je serais sans doute pas en tête du classement, très probablement. Enfin, c'est ce que je me dis au fond. Truc comme ça. Mais bon, ça me fait plaisir, hein, cette gloire momentanée, comme ça, soudaine, c'est toujours flatteur. Enfin, je vais pas aller la jouer comme ça en disant, oh, non, j'en souffre pas du tout, c'est très bien, bon, c'est très bien. Surtout que ça va se calmer, quoi. Parce que derrière, il y a quand même pas grand-chose, faut être raisonnable.
Ouais. Alors, tu râlais un peu sur le côté passif de tes nouveaux auditeurs.
Alors, disons que...
Est-ce que c'est un peu évolué?
Alors, disons que ça me fait un peu... Enfin, flipper. Ça me fait pas un peu flipper, mais au fond, tout à l'heure, tu disais, ton site, il n'a pas de ligne directrice. Et ça, c'est vrai. Ce site, c'est un peu... pour moi, c'est un peu comme un café. Quand on est accoudé au comptoir d'un café, qu'on discute avec son voisin, alors ça va, je sais pas quoi, du foot à la politique, en passant par les bonnes femmes, etc. Et bon, voilà. Et bien, ce site, c'est un peu ça, au fond. Et jusqu'à maintenant, il a été plutôt réactif. Globalement, je ne sais plus, mais de tête, j'ai dû poster quelque chose comme 500 notes et je dois avoir 1500 commentaires, un truc dans... Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'ordre de grandeur ne doit pas être complètement faux. propos. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, je ne raconte pas la vérité. Enfin, c'est pas. Je sais pas de l'information. J'ai dans le truc que dans j'ai un à propos sur tout ça. Je le précise bien. C'est pas un site d'information où on vient apprendre quelque chose. C'est un site où je publie des choses qui me passent par la tête parce qu'elles m'intéressent, parce qu'elles me paraissent importantes ou autres. Et j'attends que ce que j'attends des visiteurs, c'est que eux, ils me donnent leur avis, quitte d'ailleurs à ce que cet avis consiste à dire, c'est interdit, t'as dit une connerie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça et ça jusqu'à maintenant, ça a toujours bien marché. Ce que je crains fort, c'est que sur tous ces nouveaux arrivants qui sont donc arrivés avec iTunes, il y a activité là. Et ça serait, ça serait un peu dommage. Ça serait un peu dommage si je deviens juste un truc à diffuser à sens unique. Alors c'est plus une invitation à la discussion. Ça devient Saint-Élie Pérort dans son salon et nous apprend la vie, ce qui serait un peu con. Enfin, pas en plus totalement inexact, etc. Donc on va voir. Moi, j'ai longtemps grenouillé dans les circuits de la communication électronique et l'accroissement comme ça exponentiel du nombre de participants à quelque chose, enfin du nombre d'inscrits à quelque chose, ça, en principe, ça va pas de pair avec l'accroissement du nombre de participants. Donc je suis un peu
En fait, tu as un peu le
dubitatif.
TF1 français, tu as les... tu as un peu le TF1 français, tu as les ménagères de moins de 50 ans qui
Voilà,
t'écoutent.
c'est ça.
Facilement.
Alors, c'est pas du tout. Oui, exactement. Alors, ça m'ennuierait de venir le. Voilà. Non, mais c'est ça, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui répondent, qui écrivent, qui précisent un truc, qui machin. C'est là où sont les choses intéressantes. C'est pas tellement de comme ça d'être dans mon coin à dire voilà la vérité par-ci, voilà la vérité par-là. D'ailleurs, un
Et
truc.
que ouais.
Oui. Non, j'ai juste pour finir
Ouais,
là-dessus, parce
vas-y.
que moi, faut me couper de temps en temps parce que je suis très bavard, moi. Mais juste un truc, par exemple. J'ai eu peu d'augmentation, alors un peu, mais mais pas en proportion d'augmentation en matière de messages sur mon répondeur. Ce qui est un bon signe, parce qu'au fond, ce qui est intéressant avec les technologies audio d'aujourd'hui, c'est qu'on peut reproduire une forme d'interactivité. C'est-à-dire que moi, j'ai une Freebox, mais je pense que les autres machine box doivent faire la même chose. Si on me laisse un message sur le répondeur de la Freebox, moi, je reçois un petit fichier son. Donc que je peux inclure un truc d'après, etc., etc. Donc je m'étais dit, c'est pas mal, ça va permettre de reproduire sur un plan audio la même interactivité qu'on peut avoir sur les weblogs écrits avec les commentaires. Eh ben ça marchait pas vraiment, pour pas dire pas du tout avant. Depuis une semaine, j'ai pas eu une augmentation spectaculaire. Je crois que j'ai eu 3 ou 4 messages, j'en ai diffusé un dans mon dernier fichier, j'en ai un ou deux en réserve, mais y a pas mon le répondeur de ma Freebox n'est pas en train d'exploser, quoi. Ça, ce qui est un bon signe de ce que je craignais.
C'est formidable, tu devances ma question, parce que j'allais dire, les blogs ont la possibilité d'avoir des commentaires écrits. Toi, tu as proposé de pouvoir mettre des commentaires audio, donc c'est le concept complet de podcasting, c'est-à-dire on réagit de manière audio à un
Bah, disons
podcast, qui est
que
aussi audio, et finalement on n'entend pratiquement jamais
Bah oui,
de
parce que.
commentaires audio
Ah ben on est bien d'accord
des
parce qu'ils n'en envoient
auditeurs.
pas ces chacals. Ce sont des chacals, il faut bien le dire. Ils n'en envoient pas. Alors que effectivement, ça pourrait être relativement sympa, puisqu'on peut. Alors là, c'est parce que la technique le permet, puisque maintenant les opérateurs, comme ça, je vais faire exagérément de la pub à free, mais les opérateurs donc ADSL ont des systèmes qui permettent justement de numériser ces messages. Pour moi, ça ne me manque pas de boulot supplémentaire. Je veux dire par là, j'ai pas de matériel particulier pour ça. Quand on laisse un message sur le répondeur, je reçois par courrier électronique un petit fichier audio que je monte avec le reste, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, on pourrait arriver à recréer une espèce d'interactivité avec ça, et d'interactivité qui va dans le sens de ce que j'écrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je dis quelque chose, quelqu'un peut, c'est ce qui s'est passé dans mon dernier fichier, venir préciser en apportant son savoir à lui. Et c'est ça qui m'intéresse, cette espèce de partage de.
En plus, ça peut faire une rubrique sympa parce que ça me fait penser le commentaire audio à une émission de France Inter. Alors, je sais plus si elle y est ou pas. C'était Là-bas si j'y suis
Oui.
de Mermet et où il commençait toujours son émission avec les commentaires de ses auditeurs qui laissaient un message sur un répondeur.
Mais voilà, mais c'était
Alors,
l'idée.
c'était positif, c'était négatif, mais c'était sympa comme
Ouais, mais
concept.
l'idée c'est exactement ça. L'idée c'est vraiment ça. Mais je crois qu'il y a une espèce de pudeur, par exemple. J'ai publié au moins 2 fois des fichiers audio sur les histoires du référendum, qui est un truc qui m'a beaucoup choqué. J'ai reçu un très abondant courrier par mail qui disait soit t'es un gros con, t'as rien compris, soit c'est super, c'est exactement ce que je pense, soit c'est pas con, j'ai pas vu les choses comme ça. Et aucun Alors, aucun, oui, c'est ça. Aucun message audio là-dessus. Et très peu de commentaires sur le site. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet aspect des choses. J'ai l'impression que les gens, quand on voit les sites autour, ou les forums, ou les weblogs, tant qu'il s'agit de dire une connerie, tout le monde est prêt à sortir le clavier et à poster un petit truc. Quand il s'agit de quelque chose qui demanderait un tout petit peu de trucs personnels, un peu de trip, alors là, je suis en train de me rendre compte de ça. Là, il y a une espèce de pudeur à ça. Peut-être qu'on n'a pas non plus de culture, d'expression personnelle, publique, je ne sais pas. Enfin, là, peut-être que j'en sais rien. Peut-être que je dis peut-être une connerie. Là. En tous les cas, ça va beaucoup moins bien, beaucoup moins vite. Tu retrouves ça pas sur l'écrit, d'ailleurs. Il y a assez peu, à part Embrun, peut-être, qui est une exception là-dedans. Il y a assez peu de weblogs où il y a des vrais débats d'idées avec les visiteurs. En général, un visiteur weblog, ça dit... Oui, je suis d'accord, ou non, je suis pas d'accord, ou hihihi, ou lol, qui est la grosse réponse standard. Oui. Voilà. Mais au-delà du lol, c'est un peu limité. Eh ben, je suis un peu confronté à ce même phénomène, et ça, c'est un truc que je regrette. J'aurais adoré avoir une explosion de messages sur mon répondeur à la suite de mes, par exemple, de mes remarques sur le référendum. Il y a sans doute plein de gens qui ont des trucs qu'ils pensent, des trucs à dire. C'est un peu dommage qu'ils le fassent pas. Jusqu'à maintenant, des réponses au répondeur qui touchent un peu des choses comme ça. J'en ai une seule là, qui est en boîte. J'attends d'avoir l'occasion de la faire diffuser. C'est quelqu'un qui a des remarques pas forcément idiotes sur le terme de libéralisme. Mais c'est très, 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 très rare et c'est vraiment dommage. J'ai pas l'impression que l'auditeur, je sais pas comment il faut l'appeler, l'auditeur de podcast soit quelqu'un qui vive ça comme un média interactif. Il faut dire qu'Internet, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qu'on consomme de manière très passive. Hein, donc voilà. C'était un peu long, mais c'est un point qui me paraît important, ça.
Ouais. Non, mais en plus, bon, ce qui est amusant, c'est que tu as parlé d'Embrun, donc Laurent. Mais c'est vrai que son blog et tes podcasts se ressemblent un peu, mais vous avez tous les deux un côté un peu provocateur qui fait que le débat peut se lancer.
Oui, mais je suis pas sûr.
Parce que c'est aussi ce côté-là.
Oui, mais lui,
si parfois il dérape un peu, Laurent aussi.
Oui, enfin,
mais c'est un avis qui est personnel. Ça part parfois dans des terrains un peu.
Bien sûr. Mais alors là, j'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Mais je suis sûr que si on reprend tout ce que j'ai dit ou tout ce que j'ai écrit, j'ai dû dire des conneries monstrueuses. Là-dessus, dans la mesure où on est ouvert à la réponse et où on le fait de bonne foi, parce qu'il ne s'agit pas, faut pas non plus tout mélanger. Mais j'ai pas de complexe là-dessus. Et Laurent qui dérape de temps en temps, ça me dérange pas dans la mesure où effectivement sur son weblog, il a réussi lui un truc sur lequel moi j'ai échoué lamentablement, c'est à susciter un espèce de débat d'idées. C'est un peu une phrase un peu galvaudée, mais un espèce de débat d'idées. Donc si lui dit une connerie, c'est pas très grave, dans la mesure où il va y avoir plein de gens derrière qui vont réagir en disant oui mais là non parce que blablabla et c'est reparti. Un débat c'est pas quelque chose qui doit partir d'une vérité ou d'un truc extrêmement carré machin bidule. Un débat c'est quand on balance une idée, même si elle est mal formulée, même si elle est maladroite, voire même si elle est fausse comme ça, et que derrière ça répond pour en faire autre chose de cette idée de départ. Et ça c'est quelque chose pour l'instant auquel j'ai complètement échoué. Là-dessus c'est clair, je pense que si j'avais un gros regret vis-à-vis de tout ça, c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que je vois avec un peu d'ironie cynique ma gloire éphémère du moment, parce que à vrai dire, j'aimerais mieux être beaucoup moins célèbre et avoir un truc où ça réagisse beaucoup mieux, ou pouvoir me dire tiens ça quand même, ça il est né quelque chose d'un peu consistant, ce qui n'est vraiment pas le cas pour l'instant là-dessus. Ça c'est vraiment, c'est mon vrai gros regret.
Il y a un risque aussi. Je te laisse 2 secondes pleurer.
Oh, c'est bon, je vais dire.
Ça va. Non, mais alors, par contre, non, mais sérieusement, ta popularité soudaine, est-ce que ça n'a pas un risque de jouer sur le contenu de tes podcasts? Parce que quand il y avait un public qui te connaissait, ou il connaissait tes points de vue, ou il connaissait ta façon de faire ou de dire les choses, un dérapage aurait pu passer avec eux et aurait pu lancer un débat. Est-ce que là, le risque d'audience importante ne risque pas, au contraire, en cas de dérapage, d'enrayer un peu la machine? Parce que les gens te connaissant moins, parce qu'ils te connaissent pas, ils te suivent pas depuis un an, il suffit qu'ils s'abonnent à ton podcast et pof, ils tombent sur un podcast où tout d'un coup, un jour, tu as pété un câble parce qu'il y a quelque chose qui t'a énervé. pour que ça fasse une.
Ah ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Mais là, vraiment, non, je ne vais pas me rentrer dans ce genre de considération, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque.
Tu n'as pas peur que ça joue le fait que tu aies de l'audience, que tu fasses peut-être plus attention à ce que tu vas
Non.
dire?
Ah non, non. Non, parce que.
Non,
Parce
tu vas dire
que.
toujours autant de conneries?
Ah oui, non, non, là, ça, oui, alors ça sans la moindre hésitation. Alors ça sans la moindre hésitation. Non, ouais, mais ceci dit, c'est une bonne question. Mais non, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout changer. D'autant que cette histoire d'audience, je pense qu'il faudra en reparler dans un an, quoi. Parce que là, pour l'instant, on a des gens qui sont attirés par un phénomène qu'ils ont lu dans les journaux, qu'ils ont vu à la télé, et que maintenant ils voient quand ils ouvrent leur iTunes. Alors, ça n'engage à rien, on clique sur machin, on clique sur s'abonner, et donc j'imagine qu'on va monter un peu en conséquence dans la liste des 100 premiers, puisqu'on a de l'abonné. Maintenant, faudra voir d'abord si Apple nous fournit des statistiques, et deux, ce qu'il en reste dans les, mettons, 6 mois, 1 an, à savoir si dans 6 mois, 1 an, les gens qui ont cliqué sur s'abonner seront toujours auditeurs. Parce qu'on est en plein dans l'effet de mode, hein, pour l'instant. Donc ça sera intéressant de voir, une fois que ça se dissipe, ce qu'il en reste. Faut rester, je crois, un peu froid vis-à-vis de cet emballement soudain, parce qu'on est vraiment dans l'effet de mode, là, pour l'instant.
Quand tu vois des gens comme Adam Curry qui a le Podfazer, celui qui a un peu un des deux qui a créé le podcasting pour vraiment, qui a 10 000 auditeurs, toi tu penses pas un jour avoir
Alors,
10 000 auditeurs?
c'est une bonne remarque, ça. Tiens, je vais dire une méchanceté. Au début, quand j'ai découvert donc, ce phénomène de podcasting et que j'ai découvert que j'étais vachement hype sans le faire exprès, moi, je suis mon histoire, c'est un peu comme si demain la dentelle du puits devenait le dernier truc à la mode. Il y a plein de grand-mères qui se retrouveraient hyper branchouilles. Il y a un moment, c'est un peu ça. Et donc, à l'époque, le Daily Source Code, c'était un des rares, il n'y en avait pas beaucoup en tous les cas, trucs. Donc, j'écoutais ça pour piocher des idées dedans en me disant comment je pourrais faire, comment il fait ça, lui. Et ce qui m'a frappé, c'est que le truc d'Adam Curry, ça n'a aucun intérêt. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, on va dire. Donc, là, soyons honnêtes. Enfin, Adam Curry, tous ceux que j'ai écoutés, ils racontent sa chambre d'hôtel, ses machins, ses bidules, des conneries dont on se fout, mais alors, royalement, sur la vie, l'amour, la mort, c'est le décor de sa baraque et trucs dans ce goût-là. Son gros mérite, c'est d'avoir été le premier, d'avoir un vrai sens marketing. Il vient de chez Energy, lui, c'est un ancien, pas chez Energy, MTV, c'est un ancien animateur télé ou radio, je sais pas. Et on sent que,
DJ,
voilà,
radio,
donc on
télé,
sent qu'il
ouais.
sait très bien, et c'est pas une critique, là, ce que je veux dire, il sait très bien jouer avec les phénomènes médiatiques sonores comme ça. On sent qu'il est très, c'est vraiment un truc très. Donc il y a sans doute des idées à prendre dans ce qu'il fait parce que c'est un des professionnels du truc. À côté de ça, ce qu'il fait n'a aucun intérêt. Concrètement, son délit source code, franchement, on se fait chier au bout de 5 minutes, quoi. C'est vraiment, j'avoue que je comprends pas l'engouement qu'il peut y avoir. Alors, si moi j'avais autant d'auditeurs que lui, à la fois, encore une fois, ça serait bien pour l'aspect nombril. Je risquerais de me sentir un peu de pression, peut-être, puisque la tendance, je suis humain au fond, moi. Je ne suis qu'un homme. Quoi de plus naturel? Et donc j'aurais tendance à me dire, il faut qu'ils restent, ces gens. Et pour qu'ils restent, il faudrait que je produise de plus en plus. Je tomberais dans une espèce de pression de il faut que. Et je ne sais pas si je serais capable d'ailleurs de la tenir. Et puis, je ne sais pas si Curie a beaucoup de réactions. Moi, ça m'intéresserait d'avoir 10 000 auditeurs réguliers sur la longueur. Si ces 10 000 auditeurs réguliers, ils se manifestent. Si c'est 10 000 personnes qui consomment ça entre deux pubs Coca-Cola et une série sur TF1, je préfère en avoir 600 qui sont sympas, qui réagissent, qui bougent. Au fond, je ne gagne rien à avoir 10 000 ou 20 000 ou 100 000 auditeurs, si ce n'est le nombril qui se dilate un petit peu. Et des soucis pour savoir où est-ce que je vais mettre mes fichiers, quoi. C'est un peu ça. Donc, au fond, le nombre, la masse, pour moi, c'est pas très important. Le seul intérêt que ça pourrait avoir sur la longueur, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que peut-être ça pourrait me permettre, dans une conception idéale de l'avenir, de pouvoir convaincre un ou deux sponsors pour des projets précis, de filer un coup de main en prêtant des trucs. Si ça peut être, c'est plus facile d'aller voir, je sais pas quoi, Monsieur Sony, en disant j'ai besoin d'une caméra et j'ai 10 000 mecs qui vont regarder votre truc, que j'ai besoin d'une caméra et j'ai 50 potes super sympas qui vont regarder votre truc. Ça, c'est clair, mais ça va pas tellement au-delà de ça.
Et on va bientôt terminer parce que ça fait un petit moment qu'on nous écoute, enfin qu'on t'écoute plutôt.
Ouais, moi, si on m'arrête pas, moi je m'arrête pas tout seul, hein. Ça, c'est.
Oui, oui, mais écoute, on peut continuer longtemps alors. Mais c'est juste le problème après, c'est la durée du podcast à télécharger qui va être énorme. C'est-à-dire que s'il faut 3 jours pour télécharger le podcast,
Ouais,
ça va
c'est
pas
vrai
le
que
faire, je crois.
ça peut le faire.
Au niveau de la réactivité des podcasts, en France, c'est amusant parce que bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ça réagit pas très vite à l'actualité. Non. Alors, je te donne un exemple, c'est que tu parlais tout à l'heure du podcast d'Adam Curry que tu trouvais pas forcément très intéressant puisqu'il racontait un peu sa vie, ce qu'il faisait, etc. Mais par contre, le jour des attentats de Londres, il a fait un podcast immédiatement. Un petit peu en deuil, alors la mise en scène était un peu formidable avec la musique, enfin, c'est un grand moment, c'est à écouter, c'est le plus court de tous, il fait 9 minutes, mais il a parlé des attentats de Londres en disant que c'était dramatique, c'était ce qu'on peut dire de entre guillemets qui va pas faire avancer l'histoire, mais il parle à ses auditeurs de ce qui s'est passé, et en France personne n'a fait ça.
Alors ça c'est une bonne question et je vais essayer de faire court pour pas te pourrir le truc, mais tu peux couper, il vaut mieux que tu coupes dans ce que j'ai dit auparavant plutôt que là-dedans. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. On place sur les weblogs et on placera sur les podcasts une ambition, une attente complètement exagérée. Que je sache, il n'y a jamais eu en France, voire même ailleurs, à part l'histoire de Matt Gruge qui avait sorti Monica Lewinsky, la moindre information importante qui soit sorti d'un weblog ou d'un podcast. Parce qu'on oppose souvent les médias alternatifs, personnels, machin, aux médias traditionnels. Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, tous ces nouveaux médias sont utilisés pour singer, reprendre, reproduire, et j'y échappe pas hein, là-dessus, ce que font les médias traditionnels. Donc, c'est bien que Adam Curry dise que c'est triste, mais on le savait que c'était triste. Hein. On le savait, on est quand même dans du suivisme, mais tout le monde fait ça, moi compris. Hein. Et il y a peut-être... Il y a peut-être une réflexion, alors de notre côté, nous, d'éditeurs perso, qui faisons des trucs chez nous, une réflexion à faire sur quel est le sens de ce que je fais. Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose qui n'existe pas par ailleurs? Ça, c'est moi, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais je pense que j'aimerais bien avoir cette réponse-là. J'ai deux, trois projets dans ce sens qui consisteraient à faire des choses qui ne sont pas des reproductions de ce que font les grands médias. Parce qu'aujourd'hui, tous les weblogs font ça, et au fond, tous les podcasts ne font que ça. Alors, là, je vais dire un contre-exemple à ce que je viens de dire, c'est ce que fait comme ça du Japon, où justement, il n'y a pas de médias qui font ce qu'il fait. Ça n'existe pas. Donc son truc, il crée vraiment quelque chose, il apporte une information qu'on n'a pas autrement. Mais j'en connais pas d'autres. Et c'est pas sur le mien qu'on va trouver ce genre de choses, hélas.
Bon, pour finir, deux petites questions, Luc. Parce que je sens que là, tu es en pleine déprime depuis tout à l'heure.
C'est un weblog fumeur, France Podcast.
Pourquoi cette question?
Non, parce que le mien, il est fumeur. Et là, j'allais m'allumer une pipe. Donc, voilà, non, c'est juste, je veux pas non plus.
Ah, bah écoute, je t'en prie.
C'est un weblog non fumeur. Hein,
De toute façon, je pense pas que la loi E20 s'impose au podcasting pour le moment.
Alors, ça va, donc, on est sauvé, alors.
Fumons librement. Tu sais que c'est un appel, on n'a pas le droit normalement.
Ah oui, il faudra couper là.
Tu as qu'à faire une petite pipe, fais-toi une. Ça, on a le droit.
On a le droit, là, on a le droit là, ouais.
Pour le moment, on a encore le droit.
Bon.
Deux petites questions pour finir. Alors, c'est pas deux petites questions, c'est deux petits messages. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le podcasting, qu'est-ce que tu lui dirais?
D'avoir quelque chose à dire. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a une liste américaine qui s'appelle Podcaster. Bon, au début de la liste, les questions, c'était « Ok, je veux faire un podcast, je trouve ça super, mais qu'est-ce qu'il faut que je raconte dedans ?» C'est bien, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu représentatif du truc. Je crois qu'au fond, derrière, il faut avoir une envie de dire quelque chose. Autrement, rapidement, on va se retrouver essoufflé, enfin, à court d'idées ou des choses en tout là. Ça serait ça, la vraie. C'est quelqu'un qui a vraiment des trucs, qui a envie de dire quelque chose, il arrivera, bien sûr, il aura des soucis techniques, il fera un son de merde au début, etc. Mais ça, c'est des trucs qu'il réglera au fur et à mesure. Ça serait ça, ma vraie recommandation.
Et le deuxième petit message, c'est donc qu'est-ce que son Altesse Sérénissime, Luc Saint-Émy, pourrait dire à ses auditeurs?
Bande de chacals.
Qu'il n'a pas dit sur son podcast.
Bande de chacals, sautez sur votre téléphone et faites sauter mon répondeur.
Voilà, mais je te remercie beaucoup Luc, c'était très bien. J'espère qu'on en refera sûrement d'autres plus tard parce que on a encore beaucoup de choses à se dire. Enfin, beaucoup de questions à te poser. On peut t'écouter, évidemment, Donc une fois par mois, ou plus régulièrement peut-être.
Ouais, à l'origine, j'étais parti sur une fois par semaine, mais je suis plus près d'une fois toutes les 3 semaines, tous les mois. En ce moment, c'est
bon, régulièrement, ça, quoi.
Ouais, c'est plutôt. Ouais, le rythme, il est quand même bizarre, je reconnais.
Bon, on peut t'écouter sur audioblog.fr, on peut s'abonner bien sûr sur iTunes 4.9.
Absolument, ouais.
Et puis on te dit à très bientôt et on espère que tu vas rencontrer un mécène bientôt.
Voilà, et puis long live, fin de podcast, etc.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Voilà, le PodMag numéro 4 est terminé. Si cela vous a plu, faites-le savoir autour de vous. Merci de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas, podcastez bien.